Il s'est exprimé clairement sur le sujet en nous disant « La majorité est là pour gouverner. Les 8 conseillers formant le groupe d'opposition ne seront associés à aucune prise de décision. Ils seront uniquement informés a posteriori des décisions prises par la majorité. » Ça avait au moins le mérite d'être clair. On ne pourra pas au moins sur ce sujet reprocher au maire de ne pas avoir fait ce qu'il a dit. Alors, dans le même conseil, on a créé 9 commissions, comme la loi l'impose, une commission urbanisme, une commission des finances, etc., pour préparer les sujets mis à l'ordre du jour du conseil municipal. À ce jour, c'est-à-dire 8 mois après, sur ces 9 commissions, 8 n'ont jamais été réunies. Mmh. Une seule a été réunie récemment, c'était le 28 octobre, pour dresser un peu un catalogue de la redoute des investissements qui avaient été réalisés sur la commune et des quelques projets pour les semaines qui viennent. Alors, d'autre part, dans les autres commissions, nous ne sommes représentés dans aucune. Nous ne sommes que dans les 9, comme la loi l'impose, que ce soit la communauté de communes, que ce soit l'office municipal de la culture, le comité technique paritaire. Nous n'avons absolument aucune représentation. Alors, ça n'est pas la vision la plus large que l'on peut se faire de la gestion d'une commune, mais nous sommes bien obligés de la respecter, car c'est la loi. Ce respect de la loi, j'ai l'impression qu'il n'est pas partagé par tout le monde, car si la loi impose la représentation de l'opposition dans les 9 commissions, mmh. elle impose aussi que le maire octroie un local à l'opposition, et cela dans un délai qui doit être de 4 mois. C'est ce que la jurisprudence impose. Donc nous avons demandé ce local lors du conseil du 9 avril. Au mois d'octobre, c'est-à-dire il y a un mois, nous n'avions toujours aucune réponse. Nous avons donc saisi le préfet. Le préfet nous a envoyé un courrier qu'il a transmis lui-même au maire pour lui rappeler ses obligations en la matière. Et à ce jour, nous n'avons toujours aucune réponse concernant le local. Et pourtant, je ne compte pas continuer encore longtemps à recevoir donc nos administrés dans un bar ou dans le salon à la maison. Bon, c'est bien sympathique, mais j'aimerais pouvoir disposer au minimum d'un bureau et de 3 tables et de 3 chaises pour pouvoir recevoir les gens. Alors aujourd'hui, donc soit nous disposerons d'un local dans un délai relativement bref, soit nous allons être obligés de saisir le tribunal administratif. Alors c'est un peu regrettable dans une commune comme la nôtre, mais il est difficile de pouvoir arriver à faire respecter la loi et à obtenir ce à quoi on a droit. Alors, vous nous parliez donc des rapports qu'on pouvait avoir avec la majorité. On peut résumer cela en quelques points. Les décisions importantes pour Saint-Maximin ne sont prises que par quelques-uns dans l'opacité la plus totale. Nous ne prenons connaissance des dossiers sur lesquels on nous demande de nous prononcer en conseil municipal que quelques jours auparavant, puisque la loi impose un délai de 5 jours. Les commissions censées préparer les dossiers à l'ordre du jour du conseil municipal ne sont jamais réunies. Et la loi, qui garantit un minimum de droits à l'opposition, et pourtant ils ne sont pas extraordinaires, est bafouée. Alors néanmoins, près d'un habitant sur deux nous ont fait confiance et nous continuerons à tout mettre en œuvre pour informer et dénoncer tout ce qui ne nous paraît pas aller dans le sens de l'intérêt général. Alors nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais aujourd'hui on peut s'exprimer par exemple à la radio et je vous en remercie. Mmh. Nous avons également un site internet sur lequel nous informons nos concitoyens des comptes rendus du conseil municipal, mais aussi de la communauté de communes. Nous avons un blog. Nous envoyons une lettre mensuelle d'information à tous ceux qui ont internet et qui en font la demande. Et puis nous envisageons également une fois par an de distribuer un document papier à l'ensemble des citoyens de Saint-Maximin.
Alors récemment, lors du dernier conseil municipal, hein, on a pu l'entendre et le voir, vous n'avez pas voté le budget supplémentaire. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi justement ?
Oui, je suis heureux que vous me posiez cette question, car contrairement à ce qui a été évoqué dans la presse locale, si nous n'avons pas voté le budget, ce n'est pas parce que la commission des finances n'a pas été réunie. Bien que nous le déplorons, car si la loi impose l'existence de cette commission, c'est précisément pour que les élus aient le temps d'examiner les documents avant d'avoir à se prononcer en séance plénière. Mmh. Si nous avons voté contre le budget, c'est parce que dans la tradition des budgets précédents, ce budget fait la part belle au fonctionnement, au détriment des grands équipements qui font cruellement défaut dans une commune qui aujourd'hui approche les 20 000 habitants. Alors, je peux vous donner quelques chiffres. Depuis 6 ans, les recettes de fonctionnement croissent en moyenne de 700 000 euros par an. Bon, je dis en moyenne car ça n'est pas variable et cela est dû essentiellement à l'apport des nouveaux habitants dans la commune. Cela devrait pouvoir nous permettre d'investir pour rattraper progressivement le retard en matière d'équipement. Au lieu de cela, la quasi-totalité de ces sommes supplémentaires sont transformées en dépenses de fonctionnement. Alors, pour vous donner quelques exemples révélateurs, lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le budget supplémentaire. Dans ce budget, nous avons dû voter une rallonge de 110 000 euros pour pouvoir payer les frais de personnel jusqu'au 31 décembre. Il y avait une ligne personnelle qui était déjà assez importante dans le budget primitif, donc nous avons dû rajouter 110 000 euros. Alors, bien entendu, il y a dans ces 110 000 euros le salaire du directeur de cabinet, donc qui nous coûte environ dans les 62 000 euros par an. Mais en même temps, il y a un cadre A qui a quitté la commune, donc ça aurait dû compenser. Mais malgré cela, on a dû encore rajouter 110 000 euros. De la même façon, nous avons dû voter une rallonge de 20 000 euros pour les fêtes et cérémonies uniquement du service culture, ce qui nous paraît énorme pour une période qui va donc s'échelonner de début octobre à fin décembre. Et de façon plus générale, pour vous donner un ordre d'idée, ce même poste fêtes et cérémonies, je me suis amusé à l'évaluer, il représente sur une année civile, puisque c'est le montant inscrit dans le budget primitif plus le budget supplémentaire, il représente un montant de 218 000 euros. 218 000 euros, pour parler comme notre secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, cela représente 140 millions de centimes. Et ça fait beaucoup de sous. D'autant plus que dans le poste fêtes et cérémonies du budget, il n'y a que les apéros. Il n'y a pas les cachets des artistes, il n'y a pas toutes les grandes manifestations. En fait, ce sont les apéros et les frais de traiteur. Donc 12 millions de centimes environ par mois, ben, ça nous paraît un peu démesuré. Alors de la même façon, lors de ce budget, dans le chapitre cette fois investissement, il a été voté un montant de 500 000 euros pour le stade. Alors compte tenu des subventions, on avait pour du conseil régional 86 000 euros, du conseil général 57 000 euros. Donc le reliquat pour la commune s'élève tout de même à 358 000 euros de dépenses uniquement pour le stade. Alors nous avons posé des questions, mais nous avons été incapables de savoir dans ces 358 000 euros, quelle était la part réservée à la réhabilitation de la ruine, la part du nouveau gazon synthétique et surtout combien il nous resterait encore à payer sur ces deux opérations l'année suivante. Alors tous ces éléments, moi je n'ai pris là que quelques exemples, mais sont caractéristiques d'une gestion clientéliste et opaque que nous refusons de cautionner. Et voilà les véritables raisons pour lesquelles nous avons refusé de voter ce budget.
On aura le plaisir de revenir, Monsieur Decanis, dans quelques instants. On va retrouver une petite page de pub. On reviendra sur justement ce budget, hein, bien entendu. On va pas quitter cette question-là. On revient dans quelques instants. Vous savez, c'est les contraintes de la radio. On a des horaires à respecter. Et nous avons une petite page de publicité et on revient avec notre invité. À tout de suite.
Les fêtes arrivent, soyez prêts, souriez, Radio Sunbaum s'occupe de tout. Aidez vos clients à jouer les Pères Noël, n'attendez plus, votre publicité radio va les aider à choisir leurs cadeaux. Pour tout savoir, téléphonez dès maintenant au 04 94 78 07 44. Artisans, commerçants, industriels, restaurateurs, Radio Sunbaum est à votre service. La publicité, c'est le support d'aujourd'hui pour la réussite de demain. Allô ? 04 94 78 07 44.
Pour vos vœux funéraires, pensez à vos contrats prévoyance obsèques. Des professionnels à votre service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au magasin, vous trouverez des plaques en marbre, des vases et des fleurs artificielles. Pour vos travaux de marbrerie, renseignements sur place à Cotignac. Pompe funèbre Bessillon-Saint-Baume, 5 rue Léon Gérard à Cotignac, téléphone 04 94 77 74 51 et pompe funèbre Bessillon-Saint-Baume, 36 rue Général de Gaulle à Saint-Maximin, téléphone 04 94 59 73 68. Vous déménagez demain ? Confiez votre mobilier en toute sécurité à des professionnels. La société Concept Déménagement à Saint-Maximin répond à vos attentes et vous assure une prestation de qualité. Besoin d'entreposer votre mobilier ? La société Concept Déménagement est dotée d'un garde-meuble sécurisé en conteneur individuel plombé ou seulement besoin de fournitures d'emballage ? Une seule adresse, Concept Déménagement, ZA Route d'Aix à Saint-Maximin, téléphone 04 94 59 34 67.
Radio Sainte-Baume reçoit le jeudi 13 novembre entre 11h et midi. Monsieur Alain Descanis, élu de l'opposition de Saint-Maximin, nous aborderons les sujets concernant la ville de Saint-Maximin et les premiers mois de l'opposition au sein de la municipalité. Alain Descanis vous donne rendez-vous sur Radio Sainte-Baume le jeudi 13 novembre à 11h.
À la station service du Super U de Saint-Maximin, venez tester le lavage auto garanti anti-rayures. Les brosses spéciales, lavant douceur et en profondeur. La brillance est garantie. Même après d'innombrables lavages, la peinture garde son éclat du neuf. C'est resplendissant. Profitez en plus d'un prix très doux. Le lavage anti-rayures plus séchage est à partir de 2,80€. Alors pour les beaux jours, offrez une beauté à votre voiture. Emmenez-la au lavage auto du Super U à Saint-Maximin.
Maxi Viande, un grossiste au service du particulier. Des prix toute l'année. Maxi Viande, le spécialiste du colis familial, à partir de 20€. Maxi Viande, c'est aussi la spécialité des pièces entières. 20% d'économie avec la découpe gratuite. Vous trouverez aussi chez Maxi Viande un rayon charcuterie. Chez Maxi Viande, vous apprécierez la qualité et vous comparez les prix. Le magasin est ouvert de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30, du mardi au vendredi, le samedi non-stop. Les tickets restaurants sont acceptés. Maxi Viande, route d'Aix à Saint-Maximin.
Maxi Viande vous propose cette semaine le rhum steak à seulement 11,95€ le kilo.
04 94 59 34 62. Parking assuré.
Radio Sainte-Baume, plus proche de vous.
Allez, nous retournons avec notre invité. On retrouve donc monsieur Alain Descanis qui est avec nous, de chef de l'opposition de la mairie de Saint-Maximin. Donc on parlait de budget supplémentaire, vous étiez encore en train d'en parler, on s'en excuse encore une fois, hein. Donc de ce budget, est-ce que vous avez encore à rajouter quelque chose sur ces dépenses effectuées par la mairie ?
Pour conclure avec ce budget, de façon générale, que ce soit le budget primitif ou le budget supplémentaire que nous avons voté il y a peu, nous considérons que la part affectée aux dépenses de fonctionnement est beaucoup trop importante et qu'il faudrait au contraire dégager des marges beaucoup plus importantes pour réaliser les investissements dont une commune de la taille de Saint-Maximin aujourd'hui a réellement besoin. Et il ne faut pas rêver, la commune n'est pas très riche et il n'y a guère que de cette façon que l'on pourra arriver à doter la commune des infrastructures importantes qui lui manquent. On aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure.
Alors, lors de ce même conseil municipal, vous avez aussi voté la mise en œuvre de la procédure conduisant au plan local d'urbanisme. Comment voyez-vous l'avenir en matière d'aménagement justement du territoire sur notre commune ?
Depuis une trentaine d'années, la commune s'est urbanisée de façon totalement anarchique. Tout le territoire quasiment a été livré à l'urbanisation en même temps, à l'exception de la plaine agricole et des contreforts du massif du Mont-Aurélien. Ceci explique pourquoi aujourd'hui, malgré une croissance démographique très importante, la population a été multipliée par 4 en une trentaine d'années, Saint-Maximin a conservé la structure d'un village. Des gens qui viennent séjourner à Saint-Maximin quelques jours sont toujours surpris lorsqu'on leur dit que la commune aujourd'hui compte près de 20 000 habitants. Alors, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on est en train de recommencer la même chose avec les zones d'activité. On a vu se développer celle de la route d'Aix. Ensuite, on a créé la zone de Garnier et puis la zone de la Louve qui est en train de se développer. On a acheté des terrains pour créer une nouvelle zone d'activité au quartier Bonneval, du côté du Rayol. Et puis on nous parle encore d'une zone de près de 206 hectares. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, entre Pourcieux, Ollières et Saint-Maximin. On y a même prévu des logements, tout au moins c'est ce qui figure dans le bulletin de la communauté de communes, quelques commerces. Il ne manque plus qu'une chapelle et puis on en fait une quatrième commune entre les trois autres. Alors, tout ça nous paraît un peu inquiétant, d'autant plus que sur ces zones, on a tendance à entasser pêle-mêle toutes sortes d'entreprises sans aucune spécificité, y compris même parfois des activités de loisirs. Alors nous considérons que tout ça n'est pas bien raisonnable et qu'il est grand temps d'organiser tout cela. Ces zones n'accueillent aujourd'hui pratiquement que des entreprises qui sont liées à l'extension démographique de Saint-Maximin, notamment des entreprises commerciales, ou alors des entreprises liées à la construction. On ne peut plus continuer ce développement anarchique comme on l'a fait en matière d'urbanisme. Alors il ne s'agit pas de stopper tout développement économique, bien entendu une commune pour vivre a besoin d'activités, mais il faut attirer maintenant des entreprises à forte valeur ajoutée, génératrices de richesses et d'emplois, c'est-à-dire des entreprises qui produisent dans la commune pour vendre sur l'extérieur. Alors, bien entendu, ça n'est pas le plus facile. Tous les maires, toutes les communes rêvent un peu d'attirer des entreprises de ce type, mais c'est ce que l'on doit attendre de nos élus. Sinon, si on continue le même processus que celui qui a été initié pour l'urbanisme, d'ici quelques années, on aura sacrifié notre richesse essentielle qui est aujourd'hui le foncier et on n'aura en rien réglé le problème aussi bien de l'emploi que le problème des richesses générées par les activités économiques. Alors aujourd'hui, pour faire face à tout ça, le PLU, comme vous l'évoquiez, vient à point nommé. Lors du dernier conseil, on a voté la mise en œuvre de la procédure qui doit conduire à la mise en place d'un programme local d'urbanisme sur Saint-Maximin. Et ce dernier, on peut le décomposer en deux parties. La première partie consiste à la rédaction du PADD, c'est-à-dire le plan d'aménagement et de développement durable, qui est la partie la plus importante car c'est le cadre politique dans lequel va s'inscrire le PLU. C'est-à-dire, lorsqu'on va procéder à la rédaction de ce PADD, il va falloir se poser la question à combien souhaite-t-on dans les 20 ans à venir que Saint-Maximin arrive d'habitants ? Est-ce qu'on veut rester à 20 000 habitants ou s'arrêter vers les 20 000 habitants ? Est-ce qu'on veut arriver à 30 000, à 40 000, à 50 000 ? Saint-Maximin doit-il préserver une vocation agricole ou doit-on se tourner vers le caractère industriel ? Doit-on axer notre développement sur le tourisme ? Ce sont ces véritables questions qui devront faire l'objet d'un débat et qui permettront de rédiger le plan d'aménagement et de développement durable. Une fois que ce document aura été élaboré, eh bien, on va le traduire de façon graphique sur des cartes et on va obtenir véritablement le PLU, qui est le document qui va remplacer le POS, qui jusqu'à maintenant indiquait les règles d'urbanisme sur la commune. Alors, ce que nous souhaitons à travers la mise en œuvre de ce PLU, c'est qu'un maximum de personnes soient associées à son élaboration, car il va conditionner largement le développement de toute la commune pour la décennie à venir.
Voilà, ça c'est pour le PLU, l'urbanisme, le plan local d'urbanisme. Un autre sujet qui a fait l'objet aussi de prises de position divergentes, il s'agit de la nouvelle station d'épuration là aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ou alors on fait une petite pause musicale et puis on revient pour répondre à cette question. So, on fait comme ça, d'accord, à tout de suite Monsieur Descanis, on retrouve donc sur le 88.9 Radio Sainte-Baume, The Virgin avec She's Expensive, côté musique et nous revenons avec notre invité sur le 88.9 Radio Sainte-Baume. Don't let a good night's fun come to an early end. Let's have a cocaine brunch. I really shouldn't stay. She kicks her heels off. Takes a lot to change her mind. I can't, she's expensive. I can't stop myself but she's expensive. She's expensive.
Radio Sainte-Baume 88.9 FM Stéréo. FM Stéréo. FM Stéréo.
Retour sur l'antenne, le 88.9 Radio Sainte-Baume. À 11h30, on revient avec donc notre invité, monsieur Alain Descanis, de l'opposition de la mairie de Saint-Maximin. Alain Descanis, on parlait du budget du conseil municipal. Un autre sujet qui a fait aussi, on en a parlé il y a quelques instants, juste avant d'écouter donc ce titre, on vous a posé une question, sujet qui a fait l'objet de prises de position qui est divergente. Il s'agit de la nouvelle station d'épuration. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, vous ? Pourquoi vous êtes un petit peu contre ? Vous nous l'avez expliqué, je crois, pendant la campagne, hein, déjà dit. Hein. Est-ce que vous avez gardé toujours ce même but ?
Oui, en fait, comme cela a été évoqué dans le dernier bulletin municipal, notre station d'épuration de Méronne était obsolète, en raison à la fois de son ancienneté, puisqu'elle a déjà plusieurs décennies, mais aussi de sa capacité, puisqu'elle était limitée à 10 000 équivalents habitants, et que la population de Saint-Maximin augmente dans des proportions beaucoup plus importantes. Alors, au moment où le choix a été fait, plusieurs possibilités s'offraient à la commune. C'était avant même, d'ailleurs, les élections municipales. Et la solution retenue a consisté à détruire l'ancienne station pour la remplacer par une autre de capacité beaucoup plus importante, puisqu'elle a été passée de 10 000 équivalents habitants à 16 000 équivalents habitants, mais qui fonctionne toujours suivant le même principe. Alors, nous avons contesté ce choix, et cela au moins pour deux raisons. D'une part, on a pu constater au mois d'août 2007 les dégâts que pouvait causer à l'environnement un incident sur ce type de station relativement important. C'est la pollution de l'argent pendant plusieurs jours, que l'on a d'ailleurs déploré à cette époque-là. Et d'autre part, on ne pourra jamais raccorder la totalité des foyers de Saint-Maximin à cette station d'épuration, tout simplement parce qu'il y en a près de la moitié qui sont situés sur l'autre bassin versant, c'est-à-dire qu'après le Saint-Pilon, la ligne de partage, c'est la ligne de partage des eaux. Les eaux de pluie et les eaux de ruissellement s'écoulent vers le Coron et non plus vers l'argent. Donc toute cette partie de Saint-Maximin ne pourra jamais être raccordée à la station de Méronne, quelle que soit sa capacité. Alors c'est la raison pour laquelle, effectivement nous l'avions évoqué pendant la campagne électorale, nous aurions préféré que soient construites plusieurs microstations reposant sur le principe des lits à filtres plantés de roseaux. Implantées judicieusement en différents points de la commune, elles auraient permis de raccorder un maximum d'habitations et quelles que soient les zones dans lesquelles elles se trouvent. De plus, si le coût de construction, c'est-à-dire l'investissement pour créer ces stations-là, est à peu près le même que la station qui a été implantée à Méronne, en revanche, les frais de fonctionnement de ces stations sont quasiment nuls. Il en existe aujourd'hui à Pourcieux. Il en existe une en Rougier, une autre au plan d'Ops, et d'ailleurs, il y a peu, le vice-président de la communauté de communes chargée de l'environnement se félicitait du fonctionnement de ces stations qui sont très écologiques. Alors, le coût de fonctionnement étant nul, ça n'est pas sans incidence sur les factures qu'auront à régler nos contribuables, puisque compte tenu des frais qu'a engendré la construction de la nouvelle station de Méronne, cela va se traduire par une augmentation sensible du coût qu'auront à payer les habitants de Saint-Maximin. Alors, vous savez que les factures d'assainissement comportent deux volets. D'une part, l'abonnement semestriel, qui va passer de 12,34 € hors taxes à 17,34 €, c'est-à-dire une augmentation de 40,5%. Et d'autre part, le coût du mètre cube d'eau rejetée, qui va passer de 0,417 € hors taxes à 0,552 € hors taxes, soit 32,3% d'augmentation. Alors, je pense que si on avait réalisé des stations de notre type, on aurait pu peut-être se dispenser d'une bonne partie de cette augmentation et surtout aller dans un sens qui va vers la préservation de l'environnement.
Alors, le coût de ces micros, comme vous dites, coûte combien à la fabrication ? Parce que c'est pas là où blesse le mal, c'est peut-être que c'est cher à la fabrication, peut-être qu'à l'entretien, on s'y retrouve, mais est-ce qu'à la construction, c'est pas plus cher ?
Je n'ai plus le coût exact des stations, mais j'avais comparé avec les stations de Pourcieux et de Rougier, oui. Et il s'avère que pour le même nombre d'habitants, d'équivalents habitants, on arrive à des coûts d'investissement qui sont à peu près identiques.
D'accord.
Donc l'investissement, c'est pas ce qui fait la différence, à quelque chose près, on arrive à des mêmes montants. En revanche, ces stations ont une capacité beaucoup plus petite. Ce sont des stations qui sont prévues souvent pour 1500, 1600 équivalents habitants, donc il faudrait en positionner plusieurs sur le territoire. Mais l'avantage, c'est que d'une part, si une présentait un dysfonctionnement, et encore que, il est peu probable que ça arrive, puisque ce sont des roseaux qui sont fauchés une fois chaque année, et ce sont eux qui filtrent donc les eaux usées. Donc ça pourrait arriver, mais ça ferait beaucoup moins de dégâts qu'une grosse station. Et d'autre part, implanter judicieusement, elle raccorderait des gens qu'on ne raccordera jamais à la station de Mérone. Donc voilà pourquoi on souhaitait se diriger vers des stations de ce type.
D'accord. Merci beaucoup. On revient dans un instant, une petite page de pub, et nous retrouvons bien entendu notre invité, Monsieur Alain Decanis, en ce jeudi 13 novembre 2008 sur Radio Sainte-Baume, sur le 88.9 Radio Sainte-Baume.
Service Piscine et Jardin vous propose des prix attractifs sur ses coques polyester France Piscine. Fonds renforcé, traitement anti-osmose. De nombreux brevets déposés. Assurance décennale sur piscine et travaux. Responsabilité civile. Aucune sous-traitance. SAV. Accessoires, produits, vente et installation de spa. Service Piscine Jardin, ZA du Viaduc, 12 avenue des 5 Ponts, Saint-Maximin. Au 04 94 78 26 02.
Piscine hors terrassement, 8 mètres sur 3,90, prête au bain à 14 000 euros. Spa 3 places à partir de 6 860 euros. Promotion sur dallage et travaux maçonnerie.
Le bar-restaurant Le Pépinois à Saint-Maximin vous informe de ses menus complets de 9 à 13 euros du lundi au vendredi. Sans oublier tous les vendredis midi, sa spécialité moule frite et ses diverses sauces. Les réservations sont conseillées. Bar-restaurant Le Pépinois, ZA Route d'Aix à Saint-Maximin. 04 94 77 04 73.
Un cadeau de Noël un peu en avance. Offrez-vous une pause au Salon de l'Avenir au Bien-être, édition d'automne, les 28 et 29 novembre, de 10h à 19h, à l'abbaye de Saint-Hilaire à Ollières, organisée par Radio Sainte-Baume et AMM Conseil. Seront présents médiums, tarologie, astrologues, numérologues, photographes de l'aura, sophrologues, des praticiens de massage relaxant, mais aussi des boutiques pour préparer vos cadeaux à prix abordable et un service de restauration. Faites-vous plaisir les 28 et 29 novembre, Salon de l'Avenir au Bien-être, abbaye de Saint-Hilaire à Ollières. Renseignements 06 66 38 09 09.
Impôts fonciers, impôts locaux, impôts directs et indirects. Stop ! Y en a marre ! Et nous, qu'en pense-t-on à nos finances ? Un max d'affaires est là pour nous. Avec un grand choix de marques, de notoriété nationale et à des prix plus qu'intéressants. De la déco pour votre intérieur, des jouets de marque jusqu'à 50% moins cher. Alors, pourquoi s'en priver ? Max d'affaires, ZA Route d'Aix à Saint-Maxima.
Vous êtes locataire, mais chaque mois vous jetez un loyer par les fenêtres. Pourquoi ne pas devenir propriétaire ? Pour un montant mensuel presque équivalent. Rendez-vous chez Maison Familiale avec nos conseillers pour une étude gratuite. Venez profiter de conditions exceptionnelles. Votre villa à partir de 217 000 euros au lieu de 247 000 euros. Oui, 217 000 euros avec Maison Familiale. Maison Familiale, 6 avenue Albert 1er à Saint-Maximin. 04 98 05 21 70. Voir conditions sur place.
Radio Sainte-Baume, plus proche de vous.
Nous revenons avec notre invité, Monsieur Alain Decanis, donc de l'opposition de la commune de Saint-Maximin, en ce jeudi 13 novembre 2008 sur Radio Sainte-Baume. Monsieur donc Alain Decanis, question, vous vous êtes prononcé favorablement sur la privatisation de cantines. Alors pourriez-vous nous en indiquer les raisons ?
Oui, alors en fait, comme pour le reste, aucune commission n'a été réunie pour étudier le dossier que nous avons découvert quasiment en même temps que la délibération, soit 5 jours avant le conseil municipal. En séance, M. le maire nous a indiqué qu'au printemps, les services vétérinaires départementaux ont refusé de donner l'agrément à la cantine centrale pour la confection et le portage des repas dans les écoles. Alors étant donné qu'il était trop tard pour étudier le coût de la remise aux normes de la cuisine centrale actuelle et de procéder à des appels d'offres, il a été décidé de faire appel à une entreprise privée pour assurer le service dans 4 établissements scolaires de la commune, qui sont l'école Victor Hugo, la maternelle et la primaire Paul Barle et l'école Paul Verlaine. Alors, dans le souci d'assurer le fonctionnement de la cantine après les vacances de la Toussaint, nous avons accepté de passer par une entreprise privée, mais uniquement à condition que l'on se donne le temps d'étudier le coût de la remise aux normes de la cuisine centrale et du portage des repas et d'être sûr que, économiquement, il était impossible de continuer dans ce sens. Nous avons donc demandé au maire de modifier en séance la délibération, ce qu'il a accepté de faire, pour se donner l'année scolaire à venir pour étudier le coût économique donc que représenterait cet investissement sur la cuisine centrale. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que l'équipe majoritaire va mettre en place rapidement une commission pour étudier le coût de cette remise aux normes. Sinon, on nous dira, bien entendu, qu'il va encore être trop tard pour revenir sur une cantine publique à la rentrée scolaire prochaine. Et c'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui.
D'accord, là c'est pour les cantines, mais il y a aussi quelque temps, vous êtes exprimé pour la réouverture de la ligne Carnoul-Gardanne. Alors ça c'est le train, c'est ça, ou le car?
En fait, il s'agit d'un train express régional. Hein. Mm-hmm.
Donc, où en est ce dossier?
Alors, après avoir atteint des sommets il y a quelques semaines, le prix du pétrole est redescendu, le prix du baril, et donc le prix du carburant également. Mais néanmoins, tous ceux qui empruntent leur véhicule pour aller travailler, notamment sur les zones périphériques des Bouches-du-Rhône, savent que ça coûte encore très cher. De plus, tous les matins et soirs, vous êtes bien ici placé avec les locaux de Radio Sainte-Baume pour observer que sur la Nationale, il y a des longues files de voitures qui se déplacent pour rejoindre les zones, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Alors en même temps, notre commune dispose d'une voie ferrée qui n'est plus exploitée depuis des décennies, mais qui existe néanmoins et qui relie les grands nœuds ferroviaires que sont Carnoul et Gardanne. Alors, depuis notre élection, nous ne cessons de réclamer au conseil municipal de prendre une délibération de principe pour demander au conseil régional la réouverture de la ligne Carnoul-Gardanne. Alors, cela à la fois pour des raisons économiques, je pense que ça serait quand même très apprécié par un bon nombre de citoyens de la commune, mais aussi pour des raisons liées à la préservation de l'environnement. Alors, la région s'est engagée à financer des études. Toutes les communes riveraines de la ligne Carnoul-Gardanne ont pris une délibération pour demander la réouverture de cette ligne. Il ne reste plus que Saint-Maximin. Eh bien, nous ne comprenons pas pourquoi le conseil municipal, et plus précisément l'équipe majoritaire, s'obstine à refuser à ce que la région examine la réouverture de cette ligne.
Là, vous n'avez pas de réponse de la part de la majorité sur ce sujet ?
J'ai eu une réponse lors d'un conseil municipal qui était plutôt ironique en disant que de toute façon, on ne réouvrirait pas la ligne d'ici une trentaine d'années et donc il était inutile de le demander. Bon, ça me paraît d'autant plus étonnant que l'ensemble des maires de toutes les autres communes ont fait la même démarche et que le conseil régional s'est engagé à financer les études. Donc il me paraîtrait important que la commune de Saint-Maximin aussi manifeste sa volonté d'aller dans le même sens.
Alors, au cours de la campagne électorale, vous aviez fait de l'aménagement du centre-ville un de vos enjeux prioritaires. Que pensez-vous de la façon dont la situation évolue dans ce domaine ? Parce que je crois que vous étiez vraiment à l'opposé sur ce sujet-là avec le maire actuel de Saint-Maximin.
Effectivement, lors de la campagne électorale, nous avons fait de la réhabilitation du centre ancien un de nos axes prioritaires. Alors pourquoi ? Car la commune aujourd'hui compte un peu plus de 16 000 habitants. Sur ces 16 000 habitants, il y en a une bonne partie qui vivent comme autant d'électrons libres disséminés un peu sur tout le territoire, sans que rien ne les lie les uns aux autres. Alors d'autres, qui sont aujourd'hui largement minoritaires, sont les plus anciens de la commune. Ils regrettent un peu parfois le temps passé, mais il faut bien comprendre que Saint-Maximin ne sera jamais plus le village que les anciens ont connu, mais que Saint-Maximin en même temps, en dépit de ses 16 ou 17 000 habitants, n'est toujours pas non plus une ville. Alors pour éviter d'avoir les désagréments sans avoir les avantages d'une ville, il nous apparaît indispensable de recréer un lien social entre tous les habitants. Alors, ce lien social, quel est le meilleur endroit pour le créer ? Eh bien, il nous paraît évident que c'est dans le centre-ville, dans le centre ancien. Alors, ceci dit, cela ne peut être qu'un vœu pieux à partir du moment où on ne met pas en œuvre un certain nombre de conditions. Pour que les habitants se réapproprient le centre-ville, et surtout pour qu'ils le fréquentent tous, il faudrait que soit, d'une part, qu'il soit agréable. Agréable, ça veut dire qu'il faut développer les espaces piétons, et aussi mettre l'accent sur la propreté. Il faudrait qu'il soit facile d'accès, c'est-à-dire le doter de vastes parkings de proximité, comme nous l'avions évoqué dans la campagne électorale, et nous considérons aujourd'hui que le nombre d'aires de stationnement à Saint-Maximin est toujours très insuffisant dans le centre-ville. Et d'autre part, il faudrait également qu'il soit attractif. Alors, attractif, ça veut dire qu'il faut que les gens aient une bonne raison pour y aller. Alors, pour cela, il faut faciliter l'implantation de boutiques, mais aussi de salles de spectacle, de cinéma, de bowling ou autre. Alors, tout cela nécessite la mise en œuvre d'une politique lisible visant à programmer des investissements sur plusieurs années afin de créer une dynamique qui implique tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, il s'agit aussi bien des commerçants que des riverains, mais aussi des investisseurs qui peuvent éventuellement être intéressés pour venir réhabiliter un certain nombre de remises qui sont sur les artères aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. Mais ce que l'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'on ne voit toujours rien se développer dans ce sens. On ne voit aucune perspective nouvelle pour le centre-ville qui se désertifie un peu plus chaque jour.
Alors, on va arriver à la fin de cette rencontre, de cette interview. Et justement, avant de conclure, monsieur donc De Canis, souhaitez-vous aborder un autre sujet qui n'a pas été posé tout au long de cette émission ?
Oui, avant de terminer, je voudrais dire quelques mots du TGV, car le TGV et Saint-Maximin, c'est maintenant une vieille histoire. On ne peut pas dire que ce soit une histoire d'amour, mais c'est une histoire qui est maintenant assez ancienne. Un premier projet, appelé Tracé Kerrien, du nom, je crois, de l'ingénieur qui l'avait jeté sur le papier, avait été présenté au début des années 90 et la ligne traversait déjà Saint-Maximin d'est en ouest. Il avait été rejeté à l'époque grâce à une forte mobilisation des populations, initiée notamment par le député Hubert Falco. Depuis quelques années, ce projet a été repoussé, mais toujours un peu en gestation. Et on entend essentiellement parler de LGV sur la côte, avec le projet qui traverse Marseille, Toulon, pour relier Nice. C'est celui qu'on appelle le tracé des métropoles. Depuis 2-3 ans, il semblait emporter l'adhésion des décideurs, ce qui fait qu'on n'a plus trop parlé de LGV ou de TGV à Saint-Maximin. Ce n'est qu'au printemps que des voix se sont fait entendre, quelques hommes politiques, mais surtout le préfet de région, Sapin, pour dire que le tracé des métropoles était trop cher et donc qu'il n'était pas raisonnable, qu'il valait mieux se rabattre sur le tracé de la 8, c'est-à-dire celui qui traverse Saint-Maximin d'est en ouest, et donc qui reviendrait peu ou prou au tracé kerrien d'il y a une vingtaine d'années en arrière. Alors je ne vais pas développer ici tout un argumentaire, mais il faut que tous nos concitoyens sachent que ce TGV, quel que soit le tracé, ne nous apportera que des nuisances pour pratiquement aucun avantage. Il ne reliera pas Barcelone à Turin, comme ça a été évoqué par certains, tout simplement parce que les Italiens n'en veulent pas et que Nice sera un terminus. Il n'y aura pas de gare dans notre secteur, donc il faudra continuer à aller à Larbois pour pouvoir rejoindre Paris ou d'autres directions. Il est évident qu'il va générer des dégâts importants à l'environnement et surtout, il va engendrer la destruction de nombreuses maisons sur le territoire de notre commune et engendrer une dépréciation de beaucoup d'autres, car imaginez un peu, lorsqu'on a le TGV qui passe au bout du jardin, comment peut évoluer le prix de sa maison. Alors, on peut se poser légitimement la question, quel que soit le tracé, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des sommes colossales, de défigurer toute une région pour faire gagner quelques minutes à des Parisiens qui voudraient se rendre à Nice ou à des Niçois qui voudraient aller un peu plus vite à Paris? Alors, pour nous, il est évident que la réponse est non. Et nous pensons qu'il ne s'agit pas de choisir entre un tracé des métropoles, un tracé de la 8 ou un éventuel tracé nord dont on entend un peu parler depuis quelques jours, mais qui ne nous paraît pas non plus très sérieux. Nous, la question qui nous apparaît importante de nous poser est est-ce que cette LGV est indispensable ? Est-ce qu'il est intéressant de dépenser autant d'argent pour une ligne qui ne concernera que quelques-uns ? Alors, des manifestations.
Et je crois que le temps est de 20 minutes de gagner.
À peu près, oui. On gagne pour quelques dizaines de minutes. Cela coûte des milliards d'euros. Je n'ai plus les montants en tête. Mm-hmm. Et ça défigure une bonne partie de notre région. Alors, des manifestations importantes ont déjà eu lieu. Une à Saint-Maximin le 20 septembre, qui a attiré quand même un peu plus d'un millier de participants. Quelques jours plus tard, à la Barque, une autre manifestation avec à sa tête le maire d'Aix, Maryse Joissin, et un bon nombre d'élus de la région, a attiré un peu plus d'un millier de personnes également. Et je crois qu'une autre est prévue pour le 13 décembre. Le lieu va être dévoilé sous peu. Alors, il nous paraît extrêmement important d'être le plus nombreux possible pour faire reculer le gouvernement sur ce projet qui ne nous apportera que des inconvénients. Et sur ce projet, comme beaucoup d'autres, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'en étant nombreux, unis et déterminés, on peut peser largement sur les choix qui vont conditionner notre avenir. Et je voudrais terminer en citant la devise que nous avons utilisée largement pendant la campagne, qui est une citation que nous avons attribuée à Gaston Rebuffat, bien qu'on ne soit pas bien sûr que ce soit le premier à l'avoir utilisée. J'ai recherché dans les dictionnaires et effectivement, elle est attribuée à plusieurs personnages en même temps. Mais elle nous paraît particulièrement appropriée à la situation aujourd'hui à Saint-Maximin et qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
Merci beaucoup. Donc, Monsieur Alain De Canis, je rappelle de l'opposition Saint-Maximin, donc la municipalité de Saint-Maximin, qui était avec nous ce jeudi 13 novembre 2008. Merci beaucoup. Et juste une chose à vous dire, pour plaisanter de l'humour, par contre, si vous avez un arrêt du TGV au fond du jardin, je crois que là, votre maison va prendre de la valeur. Mais bon, c'est pas le cas. Merci beaucoup. Nous allons retrouver la musique sur le 88.9 avec Travis, Something Anything. On aura un invité, donc la semaine prochaine, mardi, nous aurons le plaisir de recevoir Gabriel Rinaudot, hein, président de la communauté des communes. Il sera avec nous, bien entendu, pour bien une intervention entre 11h et midi. Ça sera donc mardi 18 novembre 2008. Voilà, passez une très très bonne journée. On retrouve tout de suite la musique, voici Travis. Bonne matinée à tous.
A part of you that's gone.